18h, c'est l'heure du journal présenté par Antoine Maret. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les suites du conflit à la SNCF. Pour la première fois, le Premier ministre a reçu l'intersyndicale, une main tendue mais qui reste ferme, selon Matignon. Dans l'actualité internationale au Liban, les résultats officiels ne sont toujours pas tombés après les législatives. Mais ça n'a pas empêché le Hezbollah de se réjouir de sa victoire. Le mouvement chiite n'a pas pour autant donné le nombre exact de sièges remportés par son parti et ses alliés. En Inde, le fléau des violences sexuelles a fait de nouvelles victimes. Deux jeunes filles ont été violées et brûlées dans le nord-est du pays. Ces deux drames surviennent à la suite d'une longue série de viols et de violences qui ont entraîné un durcissement des peines dans les cas de viols sur mineurs. C'est une première depuis le début du conflit social à la SNCF. Le Premier ministre a reçu aujourd'hui des représentants des syndicats, UNSA, CGT, CFDT, Sud Solidaire puis FO. Ils doivent se revoir à la fin du mois avant l'examen du projet de loi en séance publique au Sénat. La réforme objet de la discorde prévoit notamment l'ouverture à la concurrence, la fin des embauches au statut à partir de 2020 et la transformation juridique de la compagnie ferroviaire. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Antoine Maret.
Vous revenez de Matignon, d'où Édouard Philippe s'est exprimé tout à l'heure. Pas question pour lui de modifier fondamentalement la réforme de la SNCF.
Oui, même s'il n'avait pas vraiment le sourire en sortant, les syndicats estiment que ce rendez-vous à Matignon va permettre d'entrer enfin dans le fond du dossier. Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots, attend donc des propositions concrètes de la part du gouvernement.
En tout cas, nous avons redit que nous ne voulons pas un retour à la méthode du mois dernier qui a complètement échoué de notre point de vue. Et donc, nous voulons une nouvelle méthode avec, si le gouvernement doit faire des propositions, qu'il nous fournisse des textes et qu'il ne soit pas simplement dans l'écoute, mais qu'il nous fournisse des éléments concrets sur ces propositions, de manière à ce qu'on puisse les apprécier, les contester, les critiquer, mais au moins avoir une interaction sur ces sujets.
À commencer par la dette, Édouard Philippe a confirmé qu'elle sera reprise en grande partie par l'État à partir de 2020, mais qu'à cette condition-là, eh bien la SNCF ne devra plus être déficitaire à partir de 2022, soit à la fin du quinquennat. Par contre, pas question de revenir sur l'ouverture à la concurrence, ni sur la fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants à la SNCF à partir de 2020. D'où l'importance pour la CFDT de proposer une quarantaine d'amendements avant la fin du mois et l'arrivée du texte au Sénat. Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminots.
Quand je dis sortir du conflit par le haut, c'est quand on aura fini le processus parlementaire, qu'on aura épuisé toutes les pistes de discussion possibles. Nous avons la négociation de la CCN, de la convention collective avec l'UTP. Nous avons le cadre d'entreprise. Là aussi, il y a d'importantes négociations à mener dans le cadre d'entreprise du groupe public. On rappelle qu'on est très attaché à un groupe public unifié et que derrière ça, la loi ne l'a pas garanti en l'état actuel des choses et nous poussons pour que, effectivement, à travers nos amendements, il soit garanti.
Le Premier ministre a également demandé à la SNCF et à Guillaume Pepy de trouver très vite des solutions et un accord avec les syndicats avant le 23 mai car il doit les rencontrer le 24 ou le 25. Guillaume Pepy.
Il faut donc que les 15 jours qui nous séparent de cette date.
Le Premier ministre nous a demandé, et nous avons pris cet engagement, de construire un plan de formation et de monter en compétences très ambitieux pour l'ensemble des cheminots. Puisque le paysage ferroviaire va changer, il faut que nous mettions le paquet pour former l'ensemble des cheminots, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, au nouveau monde de la mobilité, et j'ai pris cet engagement.
Et alors Philippe, qui donc a demandé également à ce même Guillaume Pepy eh bien, de trouver des solutions très rapidement d'ici la semaine.
Il faut donc que les 15 jours qui nous séparent de cette date soient utiles. Vous l'avez compris, j'aborde cette phase avec ouverture et fermeté. L'ouverture car nous avons devant nous de réels espaces de discussion avec les acteurs du service public ferroviaire comme avec les parlementaires. Fermeté car j'ai la conviction de la nécessité de cette réforme et aussi de la gêne occasionnée par cette grève qui n'est bonne ni pour les Français ni pour l'entreprise.
En attendant, l'intersyndicale doit se retrouver mercredi soir. Quant à la grève, elle reste pour l'instant maintenue, Antoine.
Merci Hakim Kasmi. Grève également à Air France, quatrième jour de grève en moins de 3 mois. Et le conflit semble toujours dans l'impasse, notamment depuis la démission du PDG Jean-Marc Janaillac vendredi. L'intersyndicale s'est réunie cet après-midi. La question qui se pose, c'est est-ce que les syndicats vont rester soudés ? Une chose est sûre, la CFDT, qui ne fait pas partie de l'intersyndicale, maintient sa volonté de voir s'arrêter la grève au plus vite. Elle affirme que l'intersyndicale se trompe de combat. Le mal-être des salariés ne serait pas lié au salaire, mais aux conditions de travail. Et comme avec le gouvernement, Les syndicats de pilotes sont pointés du doigt, Mathilde Bénézé.
Oui, alors a priori, l'intersyndicale ressort quand même renforcée du référendum. Le premier pari, rallier les salariés à sa cause, a été gagné. Tout le monde prévoyait une victoire de la direction. C'est finalement le non qui l'a emporté, et ce, avec une participation significative de 80%. Par ailleurs, si les syndicats de pilotes sont souvent accusés de tenir les rênes de la contestation, il semblerait que leurs détracteurs aient sous-estimé l'ampleur du malaise chez les salariés d'Air France. Ce ne sont en effet pas les pilotes, mais bien les hôtesses, les stewards et le personnel au sol qui ont fait basculer la consultation avec un rejet massif des propositions de la direction. Une direction qui n'a donc pas vu monter l'exaspération qui couvait depuis plusieurs années chez ses salariés, avec des passages en force qui ont laissé des traces, comme la mise à l'écart du personnel navigant concernant la nouvelle compagnie Joon. Et c'est ce mécontentement qui semble pouvoir unir durablement les différents corps de métiers représentés dans l'intersyndicale. Le mouvement social devrait donc continuer, mais il reste tout de même une inconnue, l'intensité de la contestation. L'intersyndicale pourrait en effet décider de lever le pied au risque de perdre la dynamique ou bien d'accroître la pression, quitte à renforcer son image jusque boutiste. Une solution intermédiaire est également envisagée, choisir de calmer le mouvement pour l'instant tout en déposant un nouveau préavis de grève pour signifier à la direction que le combat n'est pas fini.
Merci Mathilde Bénézé. Dans l'actualité internationale, au Liban, les résultats officiels ne sont toujours pas tombés après les législatives, mais ça n'a pas empêché le Hezbollah de se réjouir de sa grande victoire. Le mouvement chiite n'a pas pour autant donné le nombre exact de sièges remportés par son parti et ses alliés. À Beyrouth, les précisions d'Omar Ouaman.
Selon les premiers résultats, le Hezbollah et ses alliés, notamment du mouvement Amal, auraient obtenu au moins 67 sièges sur les 128 que compte le Parlement libanais, ce qui confère au mouvement chiite une majorité confortable et les moyens de peser sur les décisions du gouvernement. Si le Hezbollah a perdu du terrain dans la plaine de la Bekaa et dans le sud du pays, il en a en revanche gagné au sein des communautés sunnites et chrétiennes, en particulier à Beyrouth. Avec sa base élargie, le Parti de Dieu accroît sa mainmise sur les institutions du pays du Cèdre et se présente plus que jamais comme une force politique et militaire incontournable. Cette percée consacre surtout l'influence dans la région de son parrain, l'Iran, et affaiblit le camp pro-occidental. Saad Hariri, soutenu par les États-Unis et l'Arabie Saoudite, a annoncé cet après-midi que son mouvement avait perdu près d'un tiers de ses sièges, un revers qui toutefois ne devrait pas l'empêcher d'être reconduit à la tête du gouvernement, poste réservé à un sunnite en vertu du système confessionnel libanais.
En Inde, le fléau des violences sexuelles a fait de nouvelles victimes. Deux jeunes filles ont été violées et brûlées dans le nord-est du pays. L'une d'entre elles a succombé à ses blessures vendredi. L'autre est entre la vie et la mort. Ces deux drames surviennent à la suite d'une longue série de viols et de violences qui ont entraîné un durcissement des peines dans les cas de viols sur mineurs. À New Delhi, le récit de Sébastien Farcy.
L'accusé a 19 ans et il connaît sa victime, une voisine âgée de 16 ans. Vendredi soir, il attend qu'elle soit seule chez elle pour entrer et la violer. Mais après l'agression, l'adolescente menace de le dénoncer et c'est alors que le garçon panique. Il arrose la fille de kérosène et enflamme son jeune corps qui finit brûlé à 70%. Cet exemple montre une chose, la peur d'une répression ne dissuade pas forcément les violeurs, mais les encourage à assassiner leurs victimes pour éviter qu'elles témoignent. C'est ce que craignent les associations depuis que le gouvernement a instauré il y a 2 semaines la peine de mort en cas de viol sur des mineurs de 12 ans. Pour ces militants, il faut avant tout sensibiliser la police, les parents et les professeurs à ces risques d'agression sexuelle. Cela pourrait briser l'omerta qui entoure ces crimes, car plus de 9 viols sur 10 sont commis par des membres de la famille ou des personnes proches des victimes, et beaucoup préfèrent donc taire ces actes honteux. Pour les punir, au lieu de renforcer sans cesse les peines encourues, les spécialistes demandent également que la justice applique déjà les lois en place, car aujourd'hui, seulement une plainte pour viol sur 4 finit par une condamnation, les autres accusés sont relaxés.
L'Italie se cherche toujours un gouvernement plus de 2 mois après les législatives du 4 mars. Le président de la République a convoqué aujourd'hui toutes les forces politiques pour un 3e tour de consultation. Il veut en fait s'assurer que les positions n'ont pas bougé, que la situation est toujours bloquée pour prendre les choses en main. À Rome, les précisions d'Antonino Gallofaro.
Les dernières rencontres de la journée du président de la République ont lieu en ce moment. Tous attendent la déclaration de Sergio Mattarella, qui suivra d'ici peu, de connaître la solution qu'il a choisie pour permettre à l'Italie de sortir de ce blocage politique. Un gouvernement technique de trêve, comme il a été baptisé par la presse transalpine, avec des personnalités pas forcément politiques comme Premier ministre et ministre. Peu de chances que cette solution obtienne une majorité au Parlement. Le mouvement 5 étoiles, premier parti du pays après le scrutin du 4 mars, refuse tout exécutif qui ne soit pas politique. Même chose du côté de la Lega, à l'extrême droite, qui propose plutôt ses services. Matteo Salvini s'est offert comme potentiel président du Conseil. Il est appuyé par la coalition de centre-droit qu'il dirige désormais à la place de Silvio Berlusconi. Forte de 37% des voix acquises, elle revendique la victoire aux élections et refuse encore l'offre de s'allier du mouvement 5 étoiles. Reste un retour aux urnes, ce que tente d'éviter le président, l'arbitre de cette situation, mais qui n'effraie pas les deux vainqueurs des dernières élections, la formation étoilée et la Ligue.
Lendemain d'élections en Tunisie, les premières municipales depuis la révolution de Jasmin. Un scrutin marqué par la percée d'Ennahda. Selon les premières tendances, le parti islamiste serait en tête. C'est le cas par exemple à Tunis. Saoud Abderrahim est bien parti pour devenir la première femme maire de la capitale tunisienne. Bonsoir Elie Abergel.
Bonsoir Antoine Barrette.
Ennahda a fait de cette femme son symbole destiné à atténuer son image de parti islamiste.
Oui, pharmacienne habillée en pantalon de d'ailleurs, et surtout non voilée, Souad Abderrahim n'a en apparence rien d'une religieuse rétrograde. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le parti islamiste Ennahda l'a adoubée comme candidate dans la capitale tunisienne. Ce choix s'inscrit dans la stratégie globale d'Ennahda, celle de faire oublier son image de parti islamiste proche des frères musulmans. La candidate s'est présentée devant les électeurs en portant un programme assez progressiste. Souad Abderrahim souhaite améliorer les conditions d'hygiène dans les établissements scolaires, imposer un jardin d'enfants par lotissement pour aider les plus démunis, et la pharmacienne de profession veut généraliser le dépistage du cancer de l'utérus et du cancer du sein. Mais pour ses détracteurs, c'est clair, Souad Abderrahim servirait de caution progressiste aux islamistes. La candidate à la mairie de Tunis a fait son entrée dans l'arène politique nationale en 2011, déjà sous les couleurs d'Ennahda, en remportant un siège au sein de l'Assemblée constituante créée après la chute de Ben Ali. Très vite, sa position sur les maires célibataires la propulse sur le devant de la scène médiatique. Les maires célibataires sont une infamie qui ne devraient pas aspirer à un cadre légal pour leurs droits, avait-elle affirmé en 2011. Une déclaration polémique dans un pays où 4 naissances par jour ont lieu hors mariage. Malgré cette controverse, Souad Abderrahim est en passe de devenir la première femme maire de Tunis. « Je dédie ma victoire à toutes les femmes tunisiennes », a-t-elle déclaré à l'issue du scrutin, sans préciser si elle inclut les mères célibataires ou non.
Merci Elie Abergel. Aux États-Unis, on devrait savoir dans les prochains jours quel sort Donald Trump va réserver à l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 par Téhéran et 6 grandes puissances. La date butoir a été fixée à samedi. Le président américain n'a de cesse de dénoncer cet accord qui est à ses yeux, je cite, « le pire accord jamais signé par les États-Unis ». En attendant, la presse britannique et aux États-Unis, le New Yorker révèle que les équipes de Trump ont fait espionner les équipes américaines qui ont négocié cet accord. À l'époque, c'était sous l'administration Obama, pour tenter, je cite, de les salir et ainsi discréditer l'accord sur le nucléaire. À Washington, les précisions de Gregory Phillips.
Dans le New Yorker, le journaliste Ronan Farrow, celui des révélations sur l'affaire Harvey Weinstein, affirme que les équipes de Donald Trump ont, comme le producteur hollywoodien déchu, fait appel à la société israélienne Black Cube, spécialisée dans l'espionnage et les guerres d'influence. Elle fait notamment travailler des anciens du Mossad. Les premiers contacts remontent à mai 2017, après la visite en Israël du président américain. Et les équipes de Trump auraient, selon le New Yorker, demandé à Black Cube d'enquêter sur les deux principaux négociateurs américains de l'accord sur le nucléaire iranien, à savoir Ben Rhodes et Colin Kahl, deux proches conseillers d'Obama. L'idée, c'est de les salir, de prouver par exemple leur proximité avec des lobbyistes iraniens ou encore qu'ils se sont enrichis à travers la signature de cet accord. Black Cube aurait également fait appel à deux femmes qui ont approché Rhodes et Kahl, ainsi que leur entourage et leur famille, en se faisant passer pour des journalistes. Une certaine Eva Novak a contacté l'épouse de Rhodes en se faisant passer pour une documentariste. Une certaine Adriana Gavilo a contacté Kahl pour, soi-disant, obtenir des informations sur l'école de sa fille. Les deux anciens conseillers de Barack Obama ont trouvé ça bizarre. Ce soir, la société israélienne Black Cube nie tout en bloc et la Maison Blanche ne fait pour l'heure aucun commentaire.
On va s'intéresser maintenant à la condition des femmes en Afghanistan. Comme chaque année, une conférence des femmes est organisée à Kaboul par la première dame, Rula Ghani. Notre grand reporter Valérie Crovat l'a rencontrée lors de son passage à Paris en avril dernier. où elle a participé à un colloque organisé par l'OCDE sur l'égalité des genres dans les États fragiles et les situations de conflit. L'occasion de parler de la condition de la femme en Afghanistan, pays où le taux d'alphabétisation est l'un des plus bas au monde, en particulier pour les jeunes filles. Mais la situation s'améliore selon Rula Ghani.
La société afghane est en plein développement. Les femmes se sentent beaucoup plus à l'aise. Je ne dis pas que ce soit tout à fait une situation complètement normale parce que nous sommes encore dans une société d'insécurité et que peut-être la situation dans les villes est bien meilleure que celle dans les provinces. Mais nous sommes dans la bonne voie. Au niveau du chef de l'État, il y a une volonté politique très claire. Et c'est grâce à lui qu'il y a maintenant 10 femmes qui sont députées ministres, qu'il y a 5 femmes qui sont ambassadeurs. Et récemment, 5 femmes ont été assignées comme attachées commerciales dans des ambassades dans le monde. Nous avons presque 300 juges qui sont des femmes. Donc on commence à avoir une participation des femmes au niveau judiciaire qui est très intéressante et qui certainement va apporter des progrès.
Tout récemment, une photo a fait le tour du monde. C'est une photo d'une jeune femme qui est venue passer des examens pour être médecin et qui est assise par terre avec son bébé dans les bras. C'est peut-être la meilleure ambassadrice en faveur de l'éducation des jeunes filles afghanes.
C'est certainement une preuve que les femmes afghanes sont très fortes et sont habituées maintenant à l'adversité, et que quand elles ont un but qu'elles veulent obtenir, elles feront tout ce qu'elles peuvent pour pouvoir l'obtenir. Je suis sûre que ce message-là est très clair. Durant les dernières dizaines d'années, l'alphabétisation n'était pas menée très sérieusement. Là, on commençait à faire des efforts très sérieux. Je crois qu'il y a une beaucoup plus grande motivation et on voit beaucoup plus de femmes qui veulent apprendre à lire et à écrire.
Rula Ghani au micro de Valérie Krova. Le suspense était très relatif en Russie. C'est Dmitri Medvedev qui a été désigné Premier ministre par Vladimir Poutine. Il est à ce poste depuis 6 ans après avoir été président pendant un mandat. 18h17 sur France Culture. L'homme qui tua Don Quichotte pourra-t-il être projeté en clôture du Festival de Cannes le 19 mai prochain? Après 2 décennies de péripéties, le film Maudit du réalisateur britannique Terry Gilliam a fini par être tourné et monté. Monté, mais peut-être pas montrable. Le tribunal de grande instance de Paris examinait aujourd'hui en urgence cette énième affaire Don Quichotte qui oppose l'un de ses producteurs au réalisateur. Cette fois, le producteur tente de faire interdire la projection du film à Cannes. Bonsoir Cécile de Carvaz-Doué.
Bonsoir.
Cette affaire est un tel imbroglio qu'elle a duré plus de 3 heures.
Oui, c'est une véritable épopée judiciaire en fait, après l'épopée sur le tournage. 3 heures en référé qui s'ajoutent à 3 décisions de justice avec une audience en appel dont la décision est attendue pour le 15 juin prochain. C'est effectivement un des producteurs du film, la société Alfama Film, qui s'oppose à Terry Gilliam et aux autres producteurs parce qu'avant le tournage du film, en août 2016, le réalisateur avait résilié son contrat avec Alfama Film qui avait pourtant permis de relancer ce projet. Là, il s'agit d'empêcher le Festival de Cannes de montrer ce film en clôture le 19 mai prochain. Une décision prise en soutien du réalisateur, explique l'avocate du Festival de Cannes, Gabrielle Audino.
C'est une œuvre qui, je pense, est majeure dans la carrière de Terry Gilliam. S'il n'est pas projeté à Cannes cette année, il ne sera jamais projeté à Cannes une autre fois, puisqu'il faut, pour pouvoir être éligible, avoir produit le film dans les 12 mois qui précèdent la manifestation.
Les avocats du réalisateur et des autres coproducteurs dénoncent de leur côté un acharnement judiciaire et du chantage de la part d'Alfama Film à seule fin de récupérer de l'argent et surtout de régler des problèmes d'ego, ce que réfute le producteur d'Alfama Film, connu pour avoir financé aussi de nombreux films d'auteurs, Paolo Branco.
L'ego, si vous voulez, quand vous travaillez avec Cronenberg, avec Oliveira, avec Raoul Ruiz et tout ça, je sais où je dois avoir mon ego. C'est pas du tout là-dessus. Mais par contre, je veux pas être piétiné comme Terry Gilliam a essayé de faire, comme il a fait avec d'autres producteurs. Si vous voyez Lost in Mansion numéro 2, René Clytman est complètement piétiné. Vous savez combien d'argent a gagné Terry Gilliam avec ce documentaire? En profitant, si vous voulez, d'un désastre de 18 millions. Tout le monde a perdu sauf lui, et c'est ça que j'ai refusé. Si vous voulez, c'est un peu grâce à mon travail qu'au jour d'aujourd'hui, le film existe.
Et il rajoute, bien sûr, ce film ne doit pas être montré à Cannes, mais il doit bien sûr sortir. Sauf que pour l'instant, ce Don Quichotte, dont la sortie est prévue aussi en salle le 19 mai, n'a toujours pas de visa d'exploitation du CNC et ne peut donc normalement pas être montré en salle. Preuve pour l'avocat de Terry Gilliam que le producteur en veut avant tout et toujours directement à son client. Benjamin Sarfati.
Les revendications de M. Branco procèdent d'un numéro d'illusionnisme de classe mondiale. Ça n'est pas lui qui a financé la fabrication du film. Or, Terry Gilliam lui a cédé ses droits, mais en contrepartie de la cession de ses droits, M. Branco s'engageait évidemment à payer, ce qu'il n'a jamais fait.
Et le tribunal de grande instance de Paris rendra sa décision mercredi prochain, 14h30.
Merci Cécile. Demain, la France sera coupée en deux, avec du soleil sur la moitié nord, des orages sur la moitié sud. Pour une fois, c'est à Paris qu'il fera le plus chaud avec 28 degrés, un petit 22 à Marseille et seulement 14 degrés à Cherbourg. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 22h. Il vous sera présenté par Benjamin Delisle.